Bonjour, cette vidéo va nous permettre d'introduire la théorie des tests d'hypothèse et plus particulièrement leur vocabulaire et leurs principes. Voici le plan que nous allons suivre. Nous allons d'abord présenter l'objectif des tests d'hypothèse et les différents types d'hypothèses que nous allons pouvoir étudier. Nous expliquerons ensuite comment les mettre en œuvre et le vocabulaire utilisé. Enfin, nous présenterons la différence entre les tests bilatéraux et les tests unilatéraux, ainsi que la notion de p-valeur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, présentons les deux personnes qui ont théorisé le principe des tests d'hypothèse tels que nous allons les mettre en œuvre dans ce cours. Il s'agit de Niemann et Pearson, qui ont travaillé sur ce sujet dans les années 1930 à l'University College de Londres. Vous retrouverez dans le polycopier quelques éléments théoriques provenant de leurs travaux. Pour commencer, voyons l'objectif général des tests d'hypothèse et les différents types d'hypothèses rencontrées. D'une manière générale, l'objectif d'un test d'hypothèse est de se prononcer sur la validité d'une hypothèse concernant une ou plusieurs populations à partir d'informations obtenues sur des échantillons. Par exemple, un test d'hypothèse peut porter sur la proportion de déchets contenus dans un lot, la comparaison entre deux moyennes ou la comparaison entre deux variances. Dans un test d'hypothèse, on met généralement en balance deux hypothèses exclusives. Si l'une est vraie, l'autre est nécessairement fausse. C'est le cas de ces deux exemples, qui sont par ailleurs des hypothèses simples, car chacune caractérise précisément le lot. Par contre, ces deux hypothèses sont dites composites, car elles ne permettent pas de caractériser précisément le lot, et en particulier la proportion de déchets exacts qu'il contient. Des deux hypothèses testées, il y en a une, présumée vraie, qu'on voudrait mettre à l'épreuve. On l'appelle l'hypothèse nulle et on la note H0. On voudra, par exemple, tester une théorie selon laquelle la moyenne de la population doit être égale à 5. Si cette hypothèse est rejetée, on pourra conclure en faveur de l'hypothèse alternative notée H1. C'est dans le cadre de l'hypothèse nulle qu'on pourra mettre en œuvre le test, car il s'agit d'une hypothèse simple. Voyons maintenant plus précisément comment mettre en œuvre un test d'hypothèse et le vocabulaire associé. Pour exposer le principe d'un test, imaginons une fabrication industrielle de pièces métalliques. On s'intéresse plus particulièrement à la résistance des pièces fabriquées. Quand la fabrication est bien réglée, on suppose que la résistance des pièces est une variable aléatoire notée grand X qui suit une loi normale de moyenne μ0 et d'écart-type sigma. Si on prélève un échantillon de n articles dans la production, la moyenne empirique calculée sur cet échantillon suit alors une loi normale de moyenne μ0 et d'écart-type sigma sur racine de n. Nous avons déjà rencontré cette variable aléatoire et l'avons notée grand X bar. Nous allons considérer que cette situation est la situation favorable et allons la noter H0. Supposons maintenant que quand la fabrication est déréglée, la résistance des pièces suit une loi normale de moyenne μ1 inférieure à μ0, l'écart-type étant inchangé. Dans ce cas, la moyenne d'un échantillon prélevé dans la production suit cette deuxième loi. Et nous allons noter H1, cette deuxième situation. Pour simplifier la suite de l'exposé, nous allons supposer que ces deux situations sont les deux seules possibles. Nous avons donc deux hypothèses en présence, mu égale mu0 ou mu égale mu1. En pratique, et selon l'approche de Niemann et Pearson, nous allons donner un statut particulier à l'hypothèse H0. C'est dans le cadre de cette hypothèse que le test va être mis en œuvre. Nous allons donc supposer que cette hypothèse est vraie. S'il en est ainsi, pour un risque alpha choisi faible, par exemple 5%, qui est un choix courant dans l'industrie, on peut considérer qu'il est très improbable que la moyenne de notre échantillon prenne une valeur inférieure à un certain seuil, noté ici petit c. J'ai mis tout le risque à gauche, car je veux repérer la situation où la résistance des pièces fabriquées serait particulièrement faible. Le raisonnement qu'on va suivre maintenant est un raisonnement par l'absurde. En effet, si la moyenne de mon échantillon est inférieure à C, puisque c'est très improbable dans le cadre de l'hypothèse H0, c'est peut-être que cette hypothèse n'est pas bonne, et je vais donc la rejeter au risque alpha de me tromper. J'en conclus alors que c'est H1 qui est réalisé. Par contre, si petit x bar est supérieur ou égal à C, c'est normal dans le cadre de mon hypothèse de départ. Je ne peux donc pas m'y opposer. Voyons maintenant quelques points de vocabulaire. La variable grand X bar est appelée la variable ou la statistique de décision du test. Notre conclusion repose en effet sur la valeur prise par cette variable. Le domaine où l'hypothèse testée est rejetée s'appelle la région de rejet du test ou la région critique, tandis que le domaine complémentaire est la région de non-rejet ou la région d'acceptation. Enfin, alpha est généralement appelé le seuil, le risque ou parfois la taille du test. Si on se place maintenant dans le cadre de l'hypothèse H1, on voit qu'il existe une autre probabilité intéressante qu'on note bêta et qui est la probabilité de conclure H0 alors que c'est l'hypothèse H1 qui est réalisée. En effet, si notre moyenne empirique tombe à droite de C, on décidera de rejeter l'hypothèse H1 pour conclure en faveur de H0, avec la probabilité bêta de se tromper. En pratique, bêta est le risque de laisser se poursuivre une fabrication déréglée, alors que alpha est le risque de procéder à un réglage de la machine alors qu'elle n'est pas déréglée. Notons que la probabilité à gauche de C, c'est-à-dire 1 moins bêta, est appelée la puissance du test. Un test à seuil fixé alpha est donc d'autant plus puissant que la probabilité bêta est faible. On peut résumer dans un tableau les différentes situations possibles, avec en colonne les différents états possibles et en ligne la décision prise après le test. Dans deux de ces situations, ici en vert, le jugement est correct. Nous acceptons l'hypothèse et c'est bien celle-là qui est réalisée. Mais dans deux autres, ici en brun, le jugement est incorrect. Si on a conclu à l'hypothèse H1 alors que c'est H0 qui est réalisée, on a rejeté à tort l'hypothèse nulle. On dit alors qu'on a commis une erreur de première espèce et il lui correspond la probabilité alpha. À l'autre situation correspond l'erreur de deuxième espèce et sa probabilité bêta. Le test que nous venons de faire était un test unilatéral, car nous avons mis le risque alpha d'un seul côté. Voyons maintenant la différence avec un test bilatéral. Pour cela, prenons l'exemple d'un médicament en phase de test. Pour porter un jugement sur l'efficacité de ce médicament, nous allons le soumettre à des malades et mesurer sur eux un effet supposé mesurable et caractérisé par une variable aléatoire que nous allons noter grand X. Supposons que grand X soit une loi normale de moyenne mu et de variance sigma 2. Supposons également que l'on connaisse sigma mais pas mu. Le médicament ayant été administré à un échantillon aléatoire de n patients, nous pouvons calculer la moyenne empirique des valeurs de X mesurées. Et nous savons qu'elle est une réalisation de la variable aléatoire grand X bar, qui est une loi normale de même moyenne que grand X, c'est-à-dire mu. Supposons maintenant que le médicament n'a pas d'effet. Cela signifie que l'effet du médicament est nul en moyenne, c'est-à-dire que mu égale 0. L'hypothèse alternative est donc mu différente 0. Dans le cadre de l'hypothèse nulle, et pour un risque de 5% par exemple, nous pouvons alors définir un intervalle en dehors duquel il est très improbable d'observer la valeur x bar. Le risque étant réparti de chaque côté de la distribution, on dit qu'on réalise un test symétrique ou bilatéral. Si H0 est vrai, la valeur de x bar a peu de chances d'être inférieure à A ou supérieure à B. Si c'est pourtant le cas, on rejette notre hypothèse et on peut conclure que le médicament a une action au risque 5% de se tromper. Si maintenant nous voulons montrer que le médicament a une action positive, nous allons faire l'hypothèse qu'il n'a pas d'action ou que son action est négative, c'est l'hypothèse H0, en espérant rejeter cette hypothèse pour conclure en faveur de H1. Plaçons-nous en effet dans le cadre de l'hypothèse H0 et plus particulièrement dans le cas où mu égale 0, comme représenté ici à droite. Plaçons maintenant le risque à droite, ici 5%. Ce choix permet de définir une valeur seuil petit c n'ayant que 5 chances sur 100 d'être dépassée. Si maintenant mu est strictement négatif, comme indiqué par la courbe en transparence, on voit que la probabilité de dépasser petit c devient inférieure à 5%. Autrement dit, pour toutes les valeurs possibles de mu, négatives ou nulles, c'est-à-dire dans le cadre de l'hypothèse H0, la valeur petit c a très peu de chances d'être dépassée, au maximum 5%. Si la moyenne empirique calculée sur notre échantillon dépasse néanmoins la valeur de c, nous pouvons alors rejeter cette hypothèse et conclure en faveur de H1, c'est-à-dire conclure que le médicament a bien une action bénéfique avec un risque au plus égal à 5% de se tromper. Ayant placé tout le risque à droite, on dira qu'on a mis en œuvre un test unilatéral à droite. Voyons enfin un indicateur souvent utilisé et généralement fourni par les logiciels de statistique. Reprenons l'exemple du test bilatéral sur les effets d'un médicament. Nous avons vu que si l'hypothèse H0 est vraie, et pour un risque de 5%, on peut déterminer un intervalle dans lequel la moyenne obtenue sur notre échantillon a toutes les chances de tomber. Et nous avons ainsi défini une région de rejet et une région de non-rejet permettant de conclure. Ayant calculé la moyenne de notre échantillon petit x bar, une autre manière d'arriver à la conclusion consiste à calculer la probabilité que la variable grand x bar prenne des valeurs plus grandes que petit x bar ou plus petites que moins petit x bar. Cette probabilité somme des deux surfaces brunes et ce qu'on appelle la p-valeur. La plupart des logiciels de statistique la fournissent directement. Si cette p-valeur est supérieure au risque choisi, par exemple 5%, alors on ne peut pas rejeter notre hypothèse H0 et on dira que le test n'est pas significatif. Par contre, s'il est inférieur ou égal à 5%, alors on peut rejeter notre hypothèse avec un risque inférieur ou égal à 5% de nous tromper et conclure en faveur de H1. Le test est alors significatif. Autrement dit, la p-valeur est la plus faible valeur du risque qu'il faut prendre pour pouvoir rejeter l'hypothèse de départ. Dans le cas d'un test unilatéral à droite, la p-valeur est uniquement la probabilité de dépasser la valeur de petit x bar. J'espère que vous avez maintenant compris le principe des tests d'hypothèse. Dans la prochaine vidéo, nous verrons plusieurs exemples de tests, et en particulier un test sur une proportion et un test sur une variance. Je vous remercie pour votre attention.